Attention, nous allons rentrer dans la grande famille de ChatGPT de l'univers de l'AI. Bonjour Louis de Disbach.
Bonjour Pierre.
Alors Louis, tu viens d'où toi en fait?
Alors moi,
un extraterrestre qui arrive dans le milieu comme ça. Hein.
Exactement, on peut dire ça. Donc, moi je suis franco-belge, je suis né à Paris mais j'ai toujours vécu ici. Je fais mes études à Solvay, juste là, à deux pas.
Personne n'est parfait. Hein,
donc... Je fais ce que je peux. Moi, je fais ce que je peux.
Et non, puis, mais c'est très bien. C'est
après j'ai commencé à bosser en fait, dans une petite société de conseil.
Qui s'appelait?
Qui s'appelle Cream Consulting, qui est en fait de l'autre côté de l'Avenue Louise.
Ouais,
et là-bas comme business manager, j'ai passé quelques années. Et en parallèle de ça, en fait, j'ai fait un master en philo et en éthique à l'ULB.
En philo et en éthique.
Exactement, me concentrant.
Je ne savais pas que ça existait. Donc, c'est quoi la philosophie? On connaît l'éthique, c'est justement de travailler sur la déontologie.
On peut dire ça, en fait. Voilà. En gros, l'éthique, c'est la question du bien et du mal, pour la faire vraiment de façon extrêmement, extrêmement large. Et donc, l'éthique, c'est une partie de la philosophie. On dit que la philosophie, c'est un peu genre quatre grandes parties, avec entre autres l'éthique, la métaphysique, l'épistémologie, etc. Donc, c'est un peu. L'éthique, c'est une partie de la philo. Je ne voulais pas faire un master en philo pur. Je voulais me concentrer sur un côté que je trouvais plus concret.
J'ignorais que ça existait, donc merci de m'en informer.
À l'ULB, justement. Donc voilà, je me suis concentré sur tout ce qui était plutôt éthique de la tech, parce que j'ai eu quelques profs qui étaient vraiment hyper, hyper intéressants là-dessus.
On peut les citer, hein, ça n'a pas de sens.
Alors, moi, j'ai eu Pierre Dallet comme professeur, effectivement, de théorie fondamentale d'éthique. Et puis ensuite, j'ai travaillé notamment avec Thomas Berns, qui lui, vraiment, s'intéresse d'une part beaucoup à la philosophie de la guerre et à côté de ça aussi à tout ce qui est...
Il y a une philosophie de la guerre maintenant.
Philosophie de la guerre, en tout cas, de comment
elle est surtout sur économique, hein, on est d'accord. Hein, mais...
Alors ça, c'est vraiment plutôt, je veux dire, au-delà de ça, vraiment comment est-ce que ça se passe, mais y a, comment est-ce que les philosophes pensent la guerre, c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant.
Et, c'est quoi les grands philosophes de la guerre alors dans le monde?
Alors, je pense que tous les grands philosophes ont en tout cas traité la guerre, mais tu peux citer, sans trop te tromper, tu peux citer Platon, tu peux citer Machiavel, évidemment.
Bien sûr.
Tu peux citer Hobbes, tu peux citer Foucault. Donc voilà, il y a mine de rien, il y a beaucoup de philosophes qui ont pensé la guerre, mais ce que Thomas Berns essaie de montrer, c'est que notamment la façon dont les philosophes traitent la guerre, ça en fait, ça en dit long sur la philosophie. En elle-même et donc voilà. Enfin, et en fait à côté de ça, il travaille aussi sur tout ce qui est technologie. Il a notamment travaillé avec Antoine Etrovroy, qui donne cours à l'université de Namur sur les questions de gouvernementalité algorithmique. Et voilà, moi j'ai un peu découvert ça avec lui. J'ai trouvé ça hyper intéressant. Et en parallèle de ça, moi j'ai vu le documentaire, tu vois, derrière les écrans de fumée, le Social Dilemma. Et je me suis rendu, mais en fait, il y a plein de trucs à creuser là derrière. En fait, il y a vraiment énormément de choses qui se passent que j'ai envie de comprendre un peu mieux moi-même quand je vois mon propre rapport à la technologie.
Mon rapport et puis l'histoire aussi. Hein. Un arrière-grand-père qui était quand même un homme important aussi dans les mouvements de guerre, on va dire.
Oui, alors oui, mon arrière-grand-père effectivement a fait quelques trucs. Effectivement, il était député du Pas-de-Calais. Donc voilà. Après, il a accessoirement aussi voté la capitulation. Donc c'est pas non plus.
C'est pas un homme qui a une vie banale. Hein,
non, c'est pas un homme qui a une vie banale, mais voilà, je suis, on va dire, je sais pas si je peux dire son fier représentant, mais en tout cas, certainement son descendant, et on fait
ce
qu'on peut.
Voilà, on peut être fier, on veut savoir où on va, il faut savoir
d'où on vient.
Alors Louis, toutes ces études que tu as faites, à un moment, c'est dit, quand est-ce que tu t'es décidé, je vais faire un bouquin là-dessus?
Alors en fait, pour être tout à fait honnête, j'ai toujours voulu faire un bouquin. J'ai toujours voulu faire un bouquin, et j'ai utilisé mes études pour faire un livre. Mon livre, en fait, est une extension, une réécriture, une nouvelle version, on va dire, de mon mémoire de philo.
Et le mémoire était sur quoi? Déjà sur là-dessus?
Oui, tout à fait. Mon premier mémoire s'appelait « Like et sa servitude » sur le rapport avec la tech et les réseaux sociaux. Et en fait, beaucoup de gens ont dit « Ah, mais t'as utilisé ton mémoire pour faire un livre ». Et en fait, c'est pas du tout vrai. En fait, j'ai utilisé le fait de devoir faire un mémoire pour, en fait, commencer à écrire un livre. Mais j'ai toujours voulu écrire un livre. Et donc, je me suis dit « Bah, tu sais quoi, commence avec le mémoire et en fait, tu verras, tu vas transformer ça ». Donc, ça a toujours été le but. D'ailleurs, mon mémoire n'a pas un titre de mémoire. Mon mémoire, un titre de bouquin.
Ouais, très bien. Donc... Mais oui, il y a plein de mémoires, en plus, dont le tien, qui devraient être mis en service public.
Alors, de toute façon, il y a beaucoup de mémoires qui sont en service public. Hein. Il y a moyen, en tout cas, à l'ULB. À l'ULB, en fait, donc le moteur de l'ULB, enfin, ou des universités, voilà, mais pour les mémoires de l'ULB, si tu vas sur leur super outil qui s'appelle Cible Plus, qui permet de trouver plein de documents, etc. Les personnes qui ont décidé de laisser leur mémoire en accès libre, tu peux simplement aller à la bibliothèque, le consulter, etc. Donc c'est
quand on écrit un bouquin sur ChatGPT, qui est une matière vivante, c'est un magma qui bouge, et quand est-ce qu'on décide d'arrêter, on se dit, attends, c'est bon, j'imagine que tu as tout le temps eu envie de continuer, de travailler.
Oui, tout à fait. C'est des choses qui m'ont beaucoup été dites, parce que tu vois, entre le premier livre et le deuxième livre, effectivement, il y a la sortie de ChatGPT. Oui. Moi, le premier livre est parti sous presse fin novembre 2022.
Et pas pour février, ça arrive.
Exactement, pour sortir en janvier 2023.
Oui.
Et fin novembre 2022, t'as ChatGPT. Donc il y a plein de gens qui m'ont dit, mais est-ce que t'es pas hyper frustré, etc. Et à l'époque, je l'étais un peu. Et en fait, je me suis dit, mais tu sais quoi, ça va être matériel pour un deuxième bouquin. Et donc, en fait, j'ai commencé à bosser sur ChatGPT. Et donc là, maintenant, le livre sort, enfin, vient de sortir là, en mars 2024. Mmh. Bonjour ChatGPT aux éditions Mardaga. Et effectivement, ce qui est terrible, c'est marrant, j'en parlais avec Luc de Bramander, c'est qu'au moment de sa sortie, d'un certain côté, le livre est technologiquement déjà dépassé.
Ouais, Luc de Bramander qui a fait la préface.
Ah, tout à fait, et avec qui j'ai l'occasion effectivement d'échanger très, très régulièrement. Mais je pense que c'est un peu le...
C'est pas le danger du livre, moi je trouve un peu, par rapport à l'internet, où pourrait très très bien avoir un très beau site qui raconte et qui vit au jour le jour. C'est pas un choix à faire ça, même si c'est difficile à rentabiliser.
Si, si, je pense que tu sais, il y a aussi la volonté de fixer sur le papier, ouais, de dire voilà, maintenant je m'arrête là, en sachant que ce sera pas parfait. Mais du coup, tu veux retravailler certaines choses beaucoup plus pour être certain que ça pourra aussi être un peu à l'épreuve du temps. Et c'est d'ailleurs ce que je dis beaucoup, c'est que mon livre s'appelle Bonjour ChatGPT, mais il ne parle pas que de ChatGPT, c'est plus un prétexte.
Donc c'est ce que je veux dire par là, très complet, quoi. Donc, wow.
C'est un peu l'idée. Et en fait, ce que je veux dire par là, c'est que tu vois, d'ici quelques années, quand on parlera, tu vois, d'autres chatbots, etc., tu diras, ah bah c'est le ChatGPT de Google. Tu vois, aujourd'hui, quand on parle de Bing, on dit, ah c'est le Google de Microsoft. Et donc en fait, quand je dis Bonjour ChatGPT, je parle de bonjour avec toute technologie qui parle, en fait.
Question très idiote, t'as utilisé ChatGPT pour écrire ton bouquin ?
Je n'ai pas utilisé ChatGPT pour écrire mon livre.
Tu l'as envoyé maintenant dans ChatGPT pour voir ce qu'il en pense ?
Non, je pourrais. Alors, je ne sais pas s'il arriverait à tout digérer, parce qu'il y a quand même 160 beaucoup. Pages. Mais je pourrais faire chapitre par chapitre. Ça pourrait marcher sans trop de soucis. Je n'ai pas utilisé, non. Et tu vois, pareil, pour aujourd'hui, si tu veux, sur LinkedIn, par exemple, tu peux demander à LinkedIn de commencer à écrire tes posts avec de l'IA, etc. J'ai pas envie de faire ça parce que pour moi, le principe de l'écriture, c'est un humain qui s'adresse à un humain, c'est t'as envie de faire passer un message.
Bien sûr.
À partir de ce moment-là, si je le fais avec de la tech, je vois peu l'intérêt. En tout cas, dans le travail d'écriture. En revanche, j'utilise ChatGPT, peut-être pas tous les jours, mais en tout cas toutes les semaines pour le boulot, par exemple.
Bah voilà, donc moi je rappelle, moi j'ai lu le bouquin, donc c'est passionnant, donc il faut prendre le temps pour le lire. Bon, on ne le lit pas comme un poche, quoi. Donc c'est clairement.
T'as trouvé c'est, parce que moi, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit que c'était beaucoup plus facile à lire que le premier. Je pense qu'il est plus léger.
Peut-être, mais ça reste intéressant, donc il faut se poser.
J'espère, j'ai essayé.
Non, franchement, c'est un beau travail d'écriture. Ça te positionne un peu comme Mr. ChatGPT un peu ou pas?
Ah, J'espère pas parce que, tu vois, comme je le disais, moi, le livre parle de ChatGPT, mais il parle quand même surtout de philosophie de la technologie.
Oui.
Et pour moi, ChatGPT, c'est un épiphénomène dans toute cette histoire de la philosophie de la tech. Mais voilà, je n'ai pas envie en tout cas de devenir la personne qui parle de ChatGPT, parce que j'espère qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses dont on peut parler autour de la tech.
Ça va être un point de balance sur l'utilisation de l'intelligence artificielle qu'on a rendue de manière spectaculaire accessible au public, mais l'intelligence artificielle existe depuis des dizaines d'années. Hein,
voilà. Tout à fait, mais tu as tout dit en fait. ChatGPT, c'est le fait de rendre accessible, c'est le fait de rendre facile. C'est qu'aujourd'hui, maintenant, pour faire de l'IA, il suffit juste de savoir écrire. En fait. Et avant, pour faire de l'IA, il fallait savoir coder, il fallait comprendre les ordinateurs, il fallait quelques années de bagages informatiques. Aujourd'hui, pour faire de l'IA et pour dialoguer avec une IA, en fait, il faut juste savoir écrire. Et ça, c'est la révolution. Technologiquement, beaucoup de gens l'ont dit, hein, y compris Yann LeCun, tu sais, qui est le grand big boss de l'IA chez Meta, Facebook. Il a toujours dit, c'est très sympa, mais ça n'a rien de révolutionnaire. Voilà, c'est bien foutu, etc. Mais technologiquement, c'est des choses qu'on sait déjà faire depuis un petit moment. C'est juste que OpenAI a été le premier à le lancer. Mais pour moi, on est très très loin de la grande révolution technique dont on parlait.
Oui, il y a une petite agence de pub qui était venue ici, il a remis toute leur stratégie, ils les ont envoyés sur l'AI pour voir s'ils avaient été dans le bon. C'est assez drôle, puisque donc il faut l'utiliser comme un jouet, il faut l'utiliser comme un outil. Et après, on terminera par ça, si tu veux bien, Louis. Nous, je donne des cours de créativité pendant nos CAD, et là, on est confronté à un problème, et vous achevez une consultation en ligne qui ne coûte rien. Mais là, comment est-ce qu'on forme encore les créatifs en utilisant l'outil, mais en disant c'est vous d'abord, c'est l'humain d'abord.
Bon, moi, ce que je pense qui est important, c'est d'être capable de définir la créativité. Et tu vois, typiquement, je pense qu'il faut que les gens se rappellent que ChatGPT ne pourra jamais que construire des choses qui ont déjà été directement ou indirectement inclus dans ces données d'entraînement.
Et donc, là, maintenant, c'est arrêté en 2021. J'imagine qu'ils vont libérer.
Bien sûr. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que tu vois, créer quelque chose de fondamentalement neuf. Ouais. Moi, tu vois, comme je donne des exemples, tu vois, genre l'Urinoir de Marcel Duchamp, je donne la 9e symphonie de Beethoven, tu vois, ce sont des artistes qui sont sortis du cadre. Ils ont dit, on va faire quelque chose qui est vraiment différent. Et tu vois, l'exemple, la 9e de Beethoven, moi je la trouve incroyable, elle termine par des chœurs. et qui sont l'ode à la joie, qui est vraiment quelque chose, en tout cas, voilà, moi, c'est quelque chose qui me touche énormément. Eh bien, si jamais tu prenais tous les corpus des symphonies à l'époque de Beethoven et tu disais à une intelligence artificielle, vas-y, crée quelque chose, jamais l'IA n'aurait rajouté des chœurs parce que dans une symphonie, il n'y a pas de chœur. Il y a d'autres codes dans une symphonie, il n'y a pas de chœur. Et donc, en fait, la 9e de Beethoven, par une IA, c'est impossible. Ça n'existe pas. C'est... Et pourtant, le génie humain.
Ouais, le génie humain. Donc, je rappelle que l'art, définition de l'art que j'aime beaucoup, c'est vous faites quelque chose que personne ne vous a demandé de le faire. Donc, c'est déjà ça.
Mais j'aime bien. Alexandre Astier, le comédien, il avait dit dans une interview que selon lui, l'art, c'est l'ingénierie du sentiment. Et je trouve que c'est très intéressant parce que ça veut dire que ça met en machine, en forme, un sentiment que tu as pour pouvoir le transmettre à l'autre. Mais pour moi, ce que ça dit aussi, c'est que ce n'est pas machinable. Non, parce que l'ingénierie, c'est machinable, bien sûr, c'est le propre même de la machine. Néanmoins, le sentiment, c'est quelque chose qui échappera toujours à la technique, par définition même de ce que c'est un sentiment.
Voilà, je vais t'associer à Einstein, comme ça, c'est mon personnage.
Je prends.
La créativité, c'est l'intelligence qui s'amuse. Voilà, c'est un peu ça. Donc,
tout à fait.
La ChatGPT. Rappelle-nous ton bouquin.
Le bouquin s'appelle Bonjour ChatGPT, ouais. Comment l'intelligence artificielle change notre rapport aux autres. Et voilà, tout est dans le sous-titre aussi, hein, c'est de comprendre comment est-ce que la tech affecte notre rapport à nous-mêmes et à autrui.
Voilà, n'utilisez pas l'intelligence artificielle, allez l'acheter dans la librairie, les amis, ils ont besoin de vous, parce qu'ils souffrent le monde des librairies, etc. Merci.
Il faut acheter des livres.
Acheter des livres, lisez-les, surtout au bordel, comme dirait l'autre. Il y a beaucoup de gens qui les achètent, mais qui ne les lisent jamais. Merci Louis, tu reviendras, promis.
Avec grand plaisir.
On va parler de ça et on va confronter justement un personnage important dans le mot qui ne doit pas vous faire peur, un ChatGPT, c'est un nouvel outil, c'est tout.
Oui, ça ne doit pas faire peur, il n'y a pas de raison, il faut juste apprendre à se l'approprier, mais il n'y a pas de raison que ça fasse plus peur qu'autre chose. En revanche, je pense que le fait d'en avoir peur crée la peur. Voilà. Mais en revanche, vraiment, vous allez l'utiliser deux, trois fois, vous allez vite vous rendre compte qu'il y a aussi plein de limites et qu'il faut juste le prendre pour ce que c'est.
Voilà. Ne demandez pas quand je vais mourir de quoi, donc il ne me répondra pas. Voilà, donc c'est juste
J'espère pas en tout cas.
C'est pas la Madame Irma. Merci Louis Diesbach.
Merci beaucoup, Pierre.
Au revoir.